Bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission, votre émission favorite, le Libre Journal des Entrepreneurs. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Étienne de Marsac. Étienne de Marsac est un personnage particulier, vous allez apprendre à le découvrir. Il est considéré comme particulier dans ce milieu naturel qui est celui de la finance, mais au-delà de la finance, il a fait beaucoup d'autres choses et nous reviendrons sur son parcours qui est édifiant à de nombreux égards. Alors sans plus attendre, je salue Hugues qui est à distance. Hugues, tu nous entends ?
Très bien, bonjour Louis, bonjour Étienne.
Alors on
ne
t'entend pas très bien nous, hein. Il y a peut-être... Ah oui, c'est... Voilà. Je pensais qu'on était dispensé de l'appareil. Maintenant, je t'entends parfaitement. Peut-être qu'il faut qu'Étienne le prenne aussi. Voilà. Alors, sans plus attendre, nous allons demander à Étienne de se présenter, hein, de présenter plutôt son domaine d'intervention professionnelle, mais en 5 minutes simplement, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir dans un deuxième temps. Et puis après, comme c'est de tradition, je m'intéresserai à vous en tant que personne, pour voir quel a été votre parcours, quelles sont vos influences et comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Donc Étienne, à vous la parole.
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Je suis ravi d'être sur votre antenne. Moi, j'aime bien me présenter au travers de ma famille, c'est-à-dire mes proches, mon épouse. Donc je suis un homme marié à Anne-Sophie depuis maintenant 25 ans, un petit peu moins. Une femme magnifique que j'ai eu la chance d'épouser, de rencontrer lors de ma toute première expérience professionnelle, et depuis évidemment nous ne sommes pas quittés. J'ai également deux enfants qui commencent à être grands, tous les deux ingénieurs ou en phase de le devenir. Donc l'un est en école d'ingénieur et l'autre est en classe prépa et présente actuellement, là, à l'heure où nous discutons, ses concours. Hein. Donc là, il est en train de bûcher sur le concours école d'ingénieur après 3 ans à ne faire que des mathématiques, de la physique, de la chimie. Voilà, donc un heureux papa, un heureux mari. Mes racines sont assez, je dirais, assez classiques. Je suis né en région parisienne, à Versailles. J'ai travaillé essentiellement dans le domaine de la finance, un sujet sur lequel nous allons revenir, j'imagine, pendant la suite de cette émission.
Et je veux bien d'ailleurs que vous fassiez un petit flash dès maintenant sur la finance, parce que quand on parle de finance, c'est tellement large qu'on ne sait pas où vous allez nous emmener. Donc, plus particulièrement derrière ce terme, qu'est-ce que vous allez mettre dans le cours de cette émission ?
Oui, on a l'habitude de dire qu'en fait, il y a schématiquement deux types de finances. Vous avez la finance d'entreprise, c'est comment est-ce que la finance vient au service de l'expansion d'une entreprise dans ses activités traditionnelles, qui sont l'investissement, qui sont la gestion de la trésorerie, qui sont le management de son bilan. Moi, mon expertise, elle est ailleurs. Elle est dans la finance de marché, qu'on appelle en anglais le capital market, c'est-à-dire tout l'univers de la banque. Banque qui, parfois, est vue comme étant un peu la zone de tous les excès, et une sphère qui n'a pas beaucoup d'utilité pour l'économie réelle. C'est pas complètement exact. La banque, l'univers bancaire, l'univers des marchés financiers, c'est véritablement le poumon d'une économie saine. Et il ne peut pas y avoir d'économie forte sans banque forte. Et j'ai travaillé dans cet univers pendant un petit peu plus de 20 ans avant de faire une reconversion, qui n'est pas totale, mais ou tout de même avant de mettre le réaligner finalement mes convictions personnelles, mes convictions spirituelles avec ma vie professionnelle, et avant de m'occuper aujourd'hui complètement d'un institut, d'une organisation catholique qui réunit les leaders et les chefs d'entreprise internationaux pour leur faire vivre leur foi, pour faire en sorte que leur foi et leur leadership irriguent au travers de leurs responsabilités dans la société. Voilà les deux, peut-être, zones de notre intervention d'aujourd'hui.
Parfait, bah écoutez, c'est très clair. Notre programme va donc être chargé aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de notions qui sont à expliciter. Est-ce que, Hugues, d'ores et déjà, tu as une question à poser ?
Écoute, il y aurait beaucoup de questions évidemment à poser. Je pense que ce parcours de ce qu'on appelle la finance de marché en français est quelque chose d'absolument passionnant. Il faudra y revenir. Et peut-être qu'on pourra vous interroger sur des figures que moi j'ai découvertes très tardivement, alors même que j'avais commencé dans la banque et dans l'asset management, en français la gestion d'actifs, des figures comme par exemple celle de Ray Dalio, de Warren Buffett, etc., qui, je pense, ont sans doute quelque chose à nous dire de cet univers. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe parce que je n'ai jamais été actif sur les marchés, ni à titre personnel, ni à titre professionnel, mais je vois toute l'humilité et toute la démarche d'humilité qu'il faut pour lorsqu'on est un financier. Et ça, c'est aussi quelque chose de paradoxal. Et en tout cas, ça se voit chez les grands financiers, Warren Buffett étant peut-être une figure emblématique. Et là aussi, je pense que ce serait intéressant d'en parler. Et enfin, je voudrais terminer cette introduction par une petite anecdote. Récemment, je discutais avec des gens normalement cultivés, mais qui me faisaient remarquer que l'Église avait toujours condamné le prêt à intérêt et les intérêts dans la finance. Et ayant eu l'occasion avec Pierre Delauzin de faire des émissions à ce sujet, j'ai pu répondre que non, c'était faux, que
Oui,
cela datait de saint Thomas d'Aquin. Et que la position de saint Thomas d'Aquin n'était pas la position de l'Église, et je renvoyais à la parabole des talents où, au serviteur mauvais qui n'avait pas su faire fructifier, le Seigneur lui avait répondu qu'il ne s'agissait pas uniquement de lui remettre le talent qu'il lui avait donné en gestion, mais qu'à partir du moment où il était mauvais et paresseux, il fallait qu'il aille la mettre chez les banquiers, et c'est le terme banquier qui est précisé, pour qu'au moins il porte intérêt. Et qu'à son retour, il trouve son capital augmenté des intérêts. Et là aussi, je pense que ce sera intéressant de vous entendre à ce sujet, parce que là aussi, je pense qu'il y a de grandes incompréhensions, aussi bien chez les catholiques que sur les non-croyants, sur ce que l'Église demande en vue du bien commun sur ces questions financières.
Ah, c'est très intéressant, merci beaucoup.
Je vois Étienne qui sourit parce que je pense que c'est un sujet sur lequel il a dû beaucoup plancher. Donc on va y revenir, Étienne. Ce que je vous propose, effectivement, c'est de nous parler de vous à travers votre enfance, votre adolescence, les influences familiales que vous avez pu avoir et qui vous ont orienté à ce moment-là et après, peut-être quelques anecdotes qui vous ont marqué, qui reflètent bien votre personnalité.
Ben écoutez, merci. J'espère que parler de soi ne va pas barber votre audience. Moi, je suis né, si vous voulez, à l'intersection. Donc, je suis né dans une grande famille, enfin, ce qu'on appelle une grande famille, c'est-à-dire une famille qui a de grandes histoires, ou au moins une grande histoire avec un grand H à raconter. La famille du côté de ma mère, qui est la famille des Montmorillon, qui est une famille de chevaliers, la famille du côté de mon père, qui est une famille de mousquetaires. Et de mousquetaires s'étant élevés progressivement grâce à leur qualité intellectuelle. Et donc, je suis vraiment né à l'intersection finalement de, en tout cas, ce qui pourrait ressembler à, ou ce qui, dans l'esprit de mes parents, est deux vertus. Je pense que c'est le son, c'est-à-dire l'épée et la plume. L'épée du côté de ma mère, la plume du côté de mon père. Et je crois que c'était assez structurant hein, pour mes frères. Et ma sœur, hein, on est une famille de cinq enfants, trois frères et une petite sœur. Vous allez voir pourquoi. Très structurant parce que finalement, si on prend un petit peu de recul, on voit immédiatement qu'on a été une famille marquée par cet héritage. J'ai deux frères qui sont prêtres catholiques. Donc mon frère aîné Thierry, après un début de carrière et des études de droit et un début de carrière, a été véritablement appelé par le Seigneur et est actuellement curé à Toulon, au Pont du Lasse. Hein. Vous pouvez tout à fait aller écouter ses homélies édifiantes. C'est un homme qui aime beaucoup l'histoire. Je vous parlais d'une famille, une famille très sensible à l'histoire et Thierry l'aime beaucoup. Père Thierry de Marsac, donc. De la communauté de l'Emmanuel. Mon deuxième frère, mon frère Damien, lui, vient de quitter l'armée après avoir fait une brillante carrière comme général et a claqué la porte juste avant d'obtenir sa quatrième étoile. Donc une famille un peu très orientée vers le service de l'État. Mon troisième frère, donc
Et
moi vous avez
pourquoi a-t-il
compris,
claqué la porte?
désaccord total avec Macron. Voilà. Oui. Hein, là, on a de nombreuses figures qui se sont illustrées déjà dans l'armée française.
Oui.
Et même si aujourd'hui le sujet du financement, de la planification des armées et de la gouvernance est peut-être un petit peu meilleur puisque les bourses sont déliées, ça n'est pas non plus totalement. Et en tout cas, mon frère Damien, après avoir dévoué toute sa carrière, aussi bien en étant très opérationnel au Kosovo, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, etc., être bombardé à Bouaké, finalement à claquer la porte bruyamment, n'obtenant pas immédiatement le poste qu'il voulait, qui était donc de chef d'état-major, quoi, pour faire simple. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mais une gouvernance vraiment visiblement épouvantable, hein, un mélange du politique dans le militaire, une intrusion permanente du politique dans le job du militaire qui ne rendait plus cette fonction possible et faisable de son point de vue. J'ai donc mes deux premiers frères dont on vient de parler, moi-même qui suis le numéro 3, mon troisième frère a également embrassé la communauté d'Emmanuel, un appel fulgurant. Lui, c'est, alors vous parliez également de phrases de l'évangile, mais lui, c'est l'appel de deux frères dans l'évangile qui a vraiment fait un écho chez lui et qui a résonné dans sa vocation. Il était à l'époque ingénieur, enfin pas ingénieur, mais il était financier chez Bosch, hein, il a commencé sa vie professionnelle, puis a totalement laissé tomber pour devenir prêtre, récemment curé de Danières-Bois-Colombes. Beaucoup de Parisiens le connaissent, et récemment nommé à Bordeaux. J'ai une petite sœur qui travaille dans le marketing, une brillante carrière, et puis moi j'ai l'habitude de dire que la finance m'a permis de payer les factures de mes frères et sœurs et de d'entretenir le toit de la baraque de famille qu'on a plus ou moins tous quelque part et qui fuit. Voilà. Bon. Donc j'ai bouché les trous, pour faire simple.
Et alors cette jolie grande famille fondée sur des vertus essentielles a grandi comment? Comment ça se passait avec vos frères aînés? Ils avaient sans doute déjà des qualités naturelles avant d'embrasser leur vocation, mais est-ce que ça se discernait à l'époque dans vos échanges?
C'est en effet, je pense que la vocation la plus évidente à discerner était celle de chef de la part de mon frère Damien, le militaire, qui s'est tout de suite complètement identifié à cette vertu qui est le sens du devoir, le sens de l'honneur, qui a toujours été extrêmement présente ce sens qui a été extrêmement présent dans nos conversations à la maison. Vous me demandiez comment effectivement on a vécu notre enfance. On a vécu notre enfance de façon très marquée, un peu par ce poids de l'histoire. Ce sont des familles qui n'apprennent pas l'histoire dans les livres, mais qui ont fait l'histoire et qui cherchent parfois à continuer à la faire. Et ça peut être un couvercle très pesant. Un fardeau à porter, et moi ça a plutôt été mon cas, c'est-à-dire ça a nourri la recherche de qui je suis pendant de nombreuses années. Et donc pour les anecdotes, bien sûr, dans les histoires de famille, hein, qui sont des histoires prouvées, racontées, écrites, on retrouve le chevalier de Montmorillon qui en 1187, à la bataille de Hattin, qui est une bataille historique qui voit l'armée des chevaliers complètement défaite par Saladin, le sultan de Syrie et d'Égypte. Hein, l'armée occidentale est décimée, fracassée dans les déserts de Hattin, au nord, très au nord de Jérusalem, hein, quasiment à la frontière du côté d'Haïfa et encore un petit peu plus au nord, l'armée de Saladin défait des croisés, des chevaliers fatigués par de longues pérégrinations sous le poids de leur armure, et mon aïeul est capturé, et au lieu d'être enfermé au cachot, il est immédiatement convoqué par le sultan qui, à sa grande surprise, le libère. Et le libère en lui disant « Tu es un homme valeureux, tu as combattu de manière exemplaire sur le champ de bataille. Je te libère sur la base de tes vertus, persuadé que tu rentreras chez toi, collecter le montant de ta rançon et que tu viendras me la rembourser en due temps. Le chevalier de Montmorillon donc, rentre chez lui, à pied puis en bateau, collecte sa rançon et, à la grande surprise de Saladin, revient en Terre Sainte. À l'époque, on parle de voyages qui peuvent durer un an. Revient en Terre Sainte pour livrer, payer sa rançon. Et à la grande surprise de Saladin, qui du coup lui demande, en illustration de ce fait, de, d'une grande valeur, d'une grande qualité morale, beaucoup de libérés sur parole ne sont pas revenus et n'ont pas remboursé. Chevalier de Montmorillon l'a fait. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Saladin demande à ce que les Montmorillons portent le prénom de Saladin de génération en génération. Et encore aujourd'hui, mon cousin issu de Germain s'appelle Louis Saladin de Montmorillon. La tradition, depuis 1187, a été portée de mâle en mâle. Par moments, a été adossée au nom de famille, puis est revenue sur accolée au prénom. Et cette tradition, voilà, fait partie un peu de ce code d'honneur et ce couvercle un petit peu pesant. Par moments, édifiant également, mais qui a pu faire l'objet de beaucoup de discussions à la maison. Du côté, si vous voulez... Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a, il y a un écho avec mon père. Mon père, c'est pas la même histoire. Il y a une histoire de famille, bien sûr, du côté de papa. Ce sont des hommes... Les Dérouville, les Lemarois ont fait des belles guerres, comme dit papa. On fait la guerre 14-18, certains sont morts sur le champ de bataille, en sabrant les Allemands sur leur cheval. Certains sont, comme papa par exemple, ont été très marqués lorsqu'il était petit par la guerre 39-45 et par les Allemands qui sillonnaient le Limousin en remontant en 44 de la Méditerranée jusqu'à Oradour-sur-Glane, puisque notre maison se trouve juste à côté. Et papa a été profondément marqué par ces exactions des nazis lorsqu'il était petit. Et a entretenu, si vous voulez, un univers dans lequel lui a vécu, qui est un univers très dur, marqué par la violence, et qu'il a poursuivi jusqu'en Algérie. Papa est un homme qui a été mentalement blessé par l'Algérie, et qui est revenu complètement indifférent, et qui est revenu avec une énorme souffrance intérieure.
Qu'est-ce qu'il faisait en Algérie ?
En Algérie, il était lieutenant, vous savez, comme beaucoup d'appelés. Après son école d'ingénieur, parti 2 ans au milieu de nulle part, au nord-est, d'Oran, au milieu du bled, hein, véritablement, à commander une section ou plusieurs, et à faire le coup de feu contre les Félagas. Il s'est retrouvé à un moment donné au centre, si vous voulez, d'une décision qu'il a dû faire pour ou contre le putsch. Lui a choisi résolument d'être contre, c'est-à-dire il n'était pas venu en Algérie pour faire la guerre au gouvernement français, mais pour l'ordre au nom de la France. Anecdote exceptionnelle, papa a mis en prison son capitaine, son propre capitaine, lui était lieutenant, pour empêcher le capitaine d'emmener le régiment dans des voies condamnables, qui étaient celles, condamnables éventuellement, enfin je pense qu'on peut le dire a posteriori, qui étaient celles du putsch. Et papa est revenu considérablement blessé par toute cette violence, par toute cette histoire à laquelle il n'était pas préparé. Cette violence s'est traduite par beaucoup de violence à la maison, verbale, parfois même physique. Et vous me demandiez quelle était l'ambiance à la maison. L'ambiance n'était pas toujours des plus épanouies. C'est un univers où on a peur du père, on a peur de l'autorité. Et on a un peu peur aussi du devoir qui est colporté par toutes ces histoires de chevalerie qui viennent de temps illustres. Et donc, trouver sa place là-dedans, parce que je pense que c'est un peu votre question, n'est
oui,
pas évidente.
Que vous dites être un peu le trublion,
j'imagine. Un peu, exactement, ouais. Complètement même, tout à fait. Celui si vous voulez, moi j'ai essayé de trouver quelle était mon identité intérieure, c'est un peu une tautologie, mais mon identité en repoussant les limites à l'extérieur. Voilà. Et les vocations de mes deux frères, elles n'en étaient pas... on ne pouvait pas les distinguer à l'origine, même si nous allions à la messe, même si nous étions pratiquants, mais c'était une pratique plutôt assez pauvre, relevant de l'habitude, relevant parfois même de la contrainte. On allait à la messe parce qu'on était contraint. On allait aussi à la messe parce que c'était sympa. À la sortie de la messe, on voyait nos amis d'école, nos copines, etc. Donc il y avait un côté social qui était sympa, mais qui n'était pas véritablement fondé sur la foi, pas du tout fondé sur la vie intérieure, pas du tout fondé sur la relation avec la parole de Dieu. Et donc, aussi bien l'appel de Damien à Saint-Cyr, à Couët-Quidan, etc., était anticipable, aussi bien l'appel de mes deux frères comme prêtres fut... c'est un don du ciel, quoi. C'est vraiment c'est un cadeau qui a transformé la famille, clairement.
Et qui vous a transformé aussi, enfin en tout cas fait évoluer d'une manière importante, puisque vous avez pris d'autres orientations radicalement différentes de celles de vos frères, hein, et que malgré tout il y avait intérieurement tous ces acquis de votre enfance qui vivaient, qui sont manifestés beaucoup plus tard.
Hein. Oui. Alors, c'est en effet, je pense que une partie de mon ADN, c'est la recherche du père, hein, un père qui fut un peu violent, difficile en tout cas. C'est la recherche de son identité et j'ai été très attiré au début par la carrière militaire que finalement je n'ai pas embrassé ou que je n'ai embrassé que pendant 2 années qui sont celles de mon service national. En signant, à l'époque, on signait un volontariat de service long, ce qui permettait de faire 18 mois au lieu de faire 10 mois, comme officier de marine sur un bateau. Alors, qu'est-ce qui m'a plu finalement dans ce service? C'est vraiment l'expérience de la mer, mais c'est l'expérience de l'authenticité. C'est-à-dire que vous pouvez tricher à l'école, vous pouvez tricher avec votre foi. Même si au bout d'un moment vous êtes rattrapé, vous pouvez tricher en famille, vous pouvez offrir à tout moment une identité plurielle, polymorphe face à la mère, vous pouvez pas tricher et vous êtes obligé finalement de vivre une expérience de responsabilité et de responsabilité qui est nécessaire et qui est liée à cette grande contrainte. Lorsque vous êtes un officier chef de quart, vous êtes responsable vous commandez un bateau, vous avez la délégation de l'autorité du commandant de votre bateau. Vous faites à 23 ans un métier qui est pour lequel vous n'avez pas été formaté, qui est celui de la prise de décision. Qui est censé être fondé, analytique, rapide, ce qu'on appelle l'expérience, et ce qui est la chose dont vous êtes totalement dénué. Hein. Vous êtes officier de marine, vous n'avez aucune expérience. Et vous commandez des officiers ou des officiers qui ont 20 ans de mer, si vous voulez. Donc, c'est une plongée dans le monde de l'adulte et dans le monde du chef qui est assez extraordinaire.
Et pourquoi la mer? Pourquoi est-ce que vous avez choisi la marine puisque...
Oui, la mer parce que face à un environnement qu'on aurait pu décrire ou que moi je percevais comme étant un peu un carcan, vous savez, ce carcan familial, être né à Versailles, un manque d'horizon, école de commerce dans lequel finalement on est tous un peu des prototypes et il y a très peu de diversité. La mer, pour moi, exerçait une fascination, un appel à repousser les limites et un appel au beau aussi. Il y a quelque chose de... On touche le beau, on touche la beauté de la création. On touche l'infini de la création dans la mer, dans la contemplation de l'horizon, dans la contemplation des étoiles, dans le repérage avec un sextant. On touche le beau, le surnaturel. Et je pense que cette alliance entre l'absence de limite, le défi permanent qui est celui de l'autorité qui vous a été donnée, confiée, sans qu'elle soit pour autant complètement méritée, le beau, les limites, la responsabilité, tout ça, on faisait un choix tout à fait naturel. Et c'est pas tellement, c'est assez... normal, je crois, que ça m'ait tant plu. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire.
Vous faisiez du bateau avant ou pas du tout?
Je faisais de la glisse, c'était pas du bateau, je faisais de la planche à voile, du windsurf, ce genre de choses, du pédalo. Mais...
Vous êtes très sportif, je crois, hein, parce qu'on parlera du parachutisme après. Oui,
en tout cas, je l'ai été, je suis un peu moins, mais j'essaie de m'entretenir un peu. Mais le sport a été en effet assez structurant. Ouais.
Oui. Donc vous faites votre service militaire, et puis après vous rentrez, comment vous faites votre choix initial après le service militaire pour pouvoir faire la carrière qui a suivi?
Oui, alors déjà, ce choix se produit en 99, au moment où Jacques Chirac lance la, ça va être 98 ou 99, Jacques Chirac lance le grand programme de professionnalisation des armées et coupe les passerelles. Les voies parallèles permettant à un jeune officier appelé éventuellement de rentrer à l'école navale par équivalence. Donc moi j'avais fait un dossier refusé en fait parce que l'armée était en pleine mutation. Donc vous me posiez la question du choix. Mon premier choix était de me porter vers la mer. Mon deuxième choix a été effectivement de trouver un univers, un environnement dans lequel j'allais retrouver finalement la même... Les mêmes sensations ou la même possibilité d'exercer la prise de décision rapide, froid, méthodique, tout en ayant un impact assez considérable, non pas sur la vie des gens comme c'est le cas sur un bateau, par exemple, ou non pas sur la vie des gens comme c'est le cas pour un prêtre, la vie spirituelle, mais sur la vie des marchés financiers. En entreprise, finalement, c'est ce qui me faisait un petit peu peur, il peut y avoir une distance entre votre métier, vos fonctions de tous les jours et l'impact que vous avez sur le business de la boîte. Ça peut être très dilué dans le temps. Le lien peut être très distant. Vous pouvez faire un travail de manière admirable et ne pas en percevoir immédiatement la richesse, qu'elle soit économique ou qu'elle soit personnelle d'ailleurs. La notion du temps est quelque chose dont vous disposez en entreprise. Sur les marchés financiers, au contraire, c'est le temps qui dicte vos décisions. Vous n'avez pas de temps.
Ça dépend de l'activité de l'entreprise quand même.
Alors bien sûr, oui. Je suis volontairement un peu schématique, mais pour essayer de vraiment faire comprendre les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier-là, vraisemblablement un chef d'entreprise a un impact immédiat sur la direction que prend sa boîte. Un employé, un jeune diplômé, je pense quand même, quels que soient les métiers, on peut quand même penser que c'est plus distant, même si j'entends votre remarque. Néanmoins, sur les marchés, on vous donne immédiatement une possibilité d'aller transporter des milliards ou des centaines de millions, de prendre des positions pour lesquelles un calcul de résultat est immédiat. Et donc, vous avez cette possibilité très tangible et c'est très satisfaisant. Alors, ça vient un peu flatter l'ego, mais c'est très satisfaisant de pouvoir mesurer immédiatement de manière quantitative, pas qualitative, on en parlera, je pense que la finance manque de qualité, mais de manière très quantitative, vous percevez votre impact. Et c'est quelque chose d'assez grisant, d'assez passionnant, et qui faisait un très bon écho avec les coups de barre qu'on donne sur un bateau pour éviter une frégate adverse, pour éviter un récif, pour faire pivoter le navire face à un danger. Voilà.
Je vais laisser Hugues intervenir s'il le souhaite, puisqu'il est discret, mais n'hésite pas à te manifester, Hugues.
Je vous écoute avec passion.
Bon,
c'est gentil.
Comme disait notre fondateur Jean Ferret, dont c'était la phrase fétiche.
Bon. Alors, pour revenir à ce choix dans les milieux financiers, on a compris l'analogie avec l'esprit d'action et de liberté qu'on retrouve dans la mer. Les grandes étapes, finalement, pour vous, de ce parcours dans la finance, comment est-ce que vous pourriez les résumer et les concrétiser aussi, parce que pour nos auditeurs, c'est pas toujours simple.
Je comprends. Alors, la trame de fond, c'est en effet... pour conclure sur le sujet, c'est que la mer vous apprend ce que vous n'apprenez pas dans les livres de management. Et elle vous apprend la sérénité. Vous parliez tout à l'heure d'humilité, c'était très intéressant. D'humilité dans la prise de décision, d'humilité dans l'analyse de phénomènes complexes, polymorphes, qui sont difficiles à saisir avec notre petit esprit humain. Et donc, il y a eu un choix finalement assez logique. Première partie dans l'asset management. Donc, l'asset management, vous en parliez tout à l'heure,
c'est la gestion d'actifs.
C'est la gestion d'actifs ou c'est la gestion de l'épargne pour compte de tiers. Donc, on gère les actifs des autres.
Gestion de patrimoine.
Gestion de patrimoine, oui. Exactement. Alors, sa gestion de patrimoine, elle est organisée. Elle peut être organisée par classe d'actifs. Certains gérants sont gérants actions, par exemple. D'autres sont gérants thématiques, gérants de valeur de croissance, gérants d'intelligence artificielle, par exemple. D'autres sont gérants de matières premières, avec comme objectif de fabriquer du rendement pour le compte de vos clients en investissant sur pétrole, gaz, or, métaux précieux, etc., qui sont régis non pas par de la spéculation, ou pas que, en tout cas, mais régis par des grandes lois qui ont un lien avec les taux d'intérêt, on pourra en parler tout à l'heure. Donc, premier métier dans l'asset management, moi j'ai fait une grosse partie de ma carrière sur le domaine des taux d'intérêt. C'est pour ça qu'il y a un clin d'œil que vous m'avez fait tout à l'heure et qui était assez amusant. Où la gestion des taux d'intérêt, c'est-à-dire très exactement comment on optimise avec le passage du temps la création de richesse, cette création de richesse étant la contrepartie d'un prêt que l'on fait à une entreprise ou à un particulier. Hein, gérer des taux d'intérêt, c'est acheter un titre qui vous verse un taux d'intérêt, mais ce titre-là, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'argent que vous avez placé à quelqu'un. Donc cet argent que vous avez placé à quelqu'un, il sert lui-même à fructifier, il sert lui-même à faire des investissements, et donc c'est une bonne chose. Asset management pendant un gros 10 ans, dans des grosses entreprises, des gros mastodontes, Natixis Asset Management, des mastodontes qui ont l'habitude d'opérer par croissance externe, qui font que acquérir de nouveaux concurrents et donc qui grossissent comme ça de manière générique. Natixis avait racheté Natexis à l'époque. Aujourd'hui, on est sur des fusions avec vous avez AXA IM d'un côté qui lui fusionne avec, je pense que c'est BNP Paribas Asset Management. Voilà, on fait des gros mastodontes européens de la gestion d'actifs. Ce sont des métiers de masse où il faut acquérir une taille critique pour pouvoir exister. Donc il y a une grande logique de rassemblement, de fusion et d'acquisition dans cet univers. On parlera précisément de la fonction de, si vous voulez, après de ce qu'on appelle en anglais trader, mais qui revêt beaucoup d'acceptions différentes. Donc je parlerai un petit peu plus de mon métier, là je suis juste effectivement chronologique puisque c'était votre question, les grands cadres dans lesquels j'ai évolué. J'ai évolué dans un univers également de hedge fund, donc hedge fund c'est de l'asset management avec de l'effet de levier, donc on imagine un univers ultra compétitif avec les cerveaux les plus brillants, j'en faisais pas partie, je suis arrivé par là par hasard vraisemblablement, mais les cerveaux les plus brillants, des gens à la tête extrêmement bien faite, Harvard, etc., qui mettent toute leur science et toute leur connaissance au service de la fabrication de richesses pour le compte de tiers. Et alors vous avez plusieurs types de hedge funds, donc plusieurs types de fonds à effet de levier. Un grand fonds à l'effet de levier, par exemple, en 98, s'appelait LTCM. Il spéculait sur la dette émergente et la dette russe. C'est une des plus grosses faillites dans l'histoire de la finance.
Pourtant, il y avait deux prix Nobel d'économie à la direction de ce fonds, si ma mémoire est bonne.
Eh oui, c'est juste. C'est tout à fait juste. Des prix Nobel d'économie, d'ailleurs, ayant inventé des modèles mathématiques permettant de valoriser des produits financiers très complexes qu'on appelle les options. Je pense d'ailleurs que faudrait regarder, mais Nassim Nicolas Taleb a dû travailler également chez LTCM, qui est un grand mathématicien qui lui aussi a postulé pour obtenir le prix Nobel, mais ne l'a jamais obtenu. Il y a des gars comme ça, Merton, enfin, c'est pour ceux qui font de la finance, les grands matheux sont passés par ce fonds et la conclusion c'est les maths ne permettent pas, ou en tout cas C'est ce qu'on appelle, c'est fooled by randomness. On est trompé par les probabilités. Voilà. Les probabilités induisent qu'un événement rare, ben comme il est rare finalement, il ne va pas se produire, ou se produire très rarement, c'est une tautologie, mais comme il se produit très rarement à l'échelle d'une vie humaine, eh bien on s'en fiche, on ne regarde pas. Et le problème, c'est qu'un événement rare, ce qu'on appelle un signe noir, hein, la plupart du temps un black swan, un signe noir, la plupart du temps les signes naissent blancs, de temps en temps vous avez un signe noir sur les marchés financiers, c'est le black swan. Le black swan, c'est l'événement totalement improbable, comme le Covid, qui se produit, vous frappe, et donc il est rare, mais ses conséquences ne sont pas mesurables. Elles sont infiniment complexes. Et donc le cerveau humain, et c'est un biais cognitif des mathématiciens, puisqu'on parle de ce sujet, le cerveau humain a l'habitude, à cause des statistiques, de ne pas s'occuper du black swan, de ne pas regarder le risque dans 1% des cas qui pourrait survenir, pensant que comme c'est 1% des cas, c'est petit, c'est faible. Et en réalité, ce n'est pas le sujet, parce que le sujet, c'est si jamais ça se produit, c'est quoi la taille du choc? Si un Lehman Brothers se produit, très rare, la plus grande banque du monde qui explose et qui entraîne avec elle tout le système bancaire européen. C'est très rare. La Grèce qui fait défaut. Très rare. N'arrivera quasiment jamais à l'échelle d'une vie. Peut-être une fois. Et donc, l'esprit humain ne regarde pas. Il ne regarde pas les risques. En réalité, il ne regarde pas. Il regarde la probabilité du risque, mais il ne regarde pas la taille du risque. C'est-à-dire les conséquences du risque. Et donc, LTCM, le fameux fonds, lui, fait défaut. Explose, Lehman Brothers explose, la crise de la dette européenne explose, le Covid explose, tant de crises que moi j'ai vécues dans le centre du réacteur, non plus en asset management, mais en univers hedge fund, et ensuite en univers purement bancaire, puisque j'ai travaillé pour la Banque Européenne d'Investissement, la BEI, qui est le mastodonte de l'Union Européenne. Donc la banque de l'Union Européenne, la banque des banques, 500 milliards de bilan, donc un colosse aux pieds, qui ne sont pas des pieds d'argile pour le coup, hein, ce sont vraiment des pieds solides, des pieds d'éléphant, de mammouth, et qui c'est une banque de développement, donc qui arrose, et là on touche l'utilité du métier du financier, hein, c'est une banque qui favorise le développement de l'Union européenne et au-delà, en Afrique également, par une distribution de prêts tous les ans. Hein, donc ce sont des enveloppes de plusieurs milliards destinées notamment à l'Union européenne, c'est-à-dire la construction des autoroutes, la migration des centrales à gaz ou des centrales charbon de Roumanie, d'Hongrie, que sais-je, vers des centrales décarbonées. Voilà. Donc, l'Europe investit tous les jours, elle investit tous les jours par la Banque européenne. Vous savez, c'est les petites étoiles, c'est les panneaux, les drapeaux bleus avec des petites étoiles mariales que l'on voit le long des grands chantiers. L'Europe investit pour votre avenir.
C'est intéressant de rappeler que c'est des étoiles mariales.
Voilà. L'Europe a perdu sa vocation chrétienne, ouais. Mais il reste comme ça quelques signes, ouais. Qui sont des signes un peu d'espérance auxquels on peut se raccrocher dans cet univers atrocement technocratique et assez médiocre, si vous voulez, on peut développer. Donc, mais voilà les trois univers dans lesquels j'ai travaillé. Univers de la gestion d'actifs. Je fais attention aux anglicismes. Je suis en garçon bien élevé, les consignes qui m'ont été données. C'est pas facile parce que la finance se pense en anglais. Hein, donc il y a avalanche d'acronymes. Les fonds à effet de levier qui prennent des positions redoutables tous les jours. On est vraiment dans l'univers de la spéculation. Et le dernier métier qui est méconnu dans son terme, trader, négociant, mais méconnu dans sa fonction. Le trader, le négociant, c'est l'apporteur de liquidité. C'est celui qui fait qu'une banque fonctionne. C'est celui qui fait qu'une banque peut vous prêter. Quand vous empruntez, vous, en tant que particulier, pour acheter une résidence primaire ou secondaire, ou pour financer un projet d'entreprise, le trader rend ce prêt possible. Voilà, le négociant rend ce prêt possible parce que il vient apporter de la liquidité, il vient emprunter lui-même tous les jours sur les marchés financiers pour ensuite vous prêter à vous-même, il vient trouver les solutions, il vient fabriquer finalement cet argent qu'on vous prête. Cet argent qu'on vous prête, c'est une écriture comptable, mais c'est également un instrument financier qu'il faut créer. Alors vous avez des instruments financiers extrêmement complexes, où là vous avez besoin d'armées de mathématiciens pour les structurer et les vendre, et puis vous avez des instruments financiers plus simple, hein, comme un prêt, par exemple, qui est ce sur quoi s'est exercé mon expertise pendant 20 ans. Et je pense qu'on a couvert de manière assez didactique le métier du négociant slash trader, dont on ne prononce pas le mot en anglais.
Bien, alors merci pour ce concentré de finances en trois grands domaines. Alors, votre rôle au sein de ces différentes entités, tout au long de votre expérience, comment s'est-il exprimé? Comment a-t-il évolué? Et notamment par rapport à votre réflexion personnelle.
Très intéressant. Alors, merci pour cette question. Alors, on retrouve au centre de ces métiers l'hubris. La volonté de puissance, la démesure, qui au début est une douce musique qui vous berce et vous entretient dans votre motivation de tous les jours et vous conduit à une quête qui est la quête du toujours plus de biens, toujours plus de biens matériels, toujours plus de résultats, alors soit pour soi, soit pour ses clients. Mais qui est une quête qui n'a pas de limite ou qui n'en rencontre jamais et donc qui est dangereuse et la plupart du temps ça se finit mal et moi j'ai fait un burn-out en 2023 si on doit commencer par la fin, mais après avoir connu des années en effet extraordinaires et passionnantes parce qu'on parlait un peu des crises. Je vais juste faire un petit aparté sur la manière dont nous, dans notre hedge fund, on a vécu la crise du Covid et surtout la sortie de Covid qui permet de comprendre ce qu'est le métier d'un bon gérant ou d'un bon gérant d'actifs ou d'un bon trader qui est celui d'anticiper et d'anticiper des grands thèmes structurants, pas simplement la variation de prix financiers, ça c'est pas très intéressant, mais d'anticiper des thèmes. En 2019, mon équipe et moi avons été, ça nous ramène à un passé qui est un passé un peu compliqué, hein, qui est celui de la crise du Covid. Mais en 2019, notre fonds et donc mon équipe, par notre intelligence et notre travail, avons été en mesure de quantifier très exactement, en avance sur tout le monde, le moment où le Covid allait frapper l'Europe. Et très précisément, donc cette troisième semaine de mars 2020, le moment où l'économie européenne allait fermer. Donc en amont, on est trois mois plus tôt, hein, dans décembre 2019, mon équipe et moi, on porte déjà des masques FFP2 dans la rue. On est probablement les seuls à Paris. Et pas parce que on a joué aux oracles, mais par le travail, par... ce qu'on appelle le data crunching, donc en allant chercher des data en Chine, en allant regarder très précisément ce qui se passe sur les flux, notamment les flux de voitures, donc les voitures quittant les grandes agglomérations, puisque les Chinois nous ont menti sur la chronologie de cette infection et de cette pandémie qui a démarré beaucoup plus tôt et dont les premiers signaux étaient déjà perceptibles dès le mois de décembre 2019. Et notre équipe, nous, on a pu les percevoir, notamment nous rendre compte en allant pirater les données des péages, nous rendre compte que oui, les péages voyaient tous les jours le même flux de voitures et que donc ce que disaient les Chinois était visiblement au premier degré d'analyse vrai, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir, vous voyez bien le trafic de voitures, trafic de bateaux, etc. Tout ça est à l'identique, ne bouge pas, notre économie fonctionne. Sauf que nous, dans nos datas, ce qu'on a pu voir après quelques heures de travail, c'est qu'en fait le flux n'était que dans un seul sens. Les voitures sortent des grandes agglomérations, elles ne rentrent plus. Donc les gens fuyaient, en fait. On a compris très tôt par l'analyse de la data, ce qui était en train de se jouer. Ce qui a permis au hedge fund de...
Comment se fait-il que vous l'ayez compris et que d'autres ne l'aient pas vu?
C'est le travail. C'est vraiment le travail. C'est bon. Pour ça, il faut du temps, il faut de l'énergie, avoir une capacité à saisir un peu ce qui change. Et si vous voulez, moi j'ai toujours été, c'est mon mantra de gérant fut pendant des années de gérer les biais cognitifs de l'homme. L'homme, en réalité, c'est une machine à se tromper. Et il y a un grand biais sur les marchés qui est d'essayer de mesurer le présent et le futur à partir du passé. Voilà. La catastrophe du Covid en Europe et le fait que, malgré tous les signaux entre janvier et mars, le politique n'ait pas choisi de prendre les mesures qui s'imposaient, peut-être confinement ou un confinement qui aurait été fait de manière plus intelligente et donc qui aurait offert une résilience de l'économie sur la durée plutôt qu'un confinement brutal immédiat qui a fait péricliter l'économie européenne et dont on paye aujourd'hui les conséquences. Hein. On parle du passé, mais on parle du passé parce qu'aujourd'hui, on le paye dans la dette de la France.
On va reprendre tout de suite, Étienne. On fait une pause à mi-parcours. On est déjà à 12h46 hein, et je laisse la parole à Benoît.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, nous reprenons avec Étienne. Nous parlions, nous étions au cœur de la crise du Covid qui a bien entendu impacté tous les marchés et la finance en premier lieu.
Et les finances de la France. Hein.
En particulier, on en subit encore les conséquences, bien sûr, et pour longtemps.
Voilà, les 1000 milliards de dettes sont liés à cette incapacité de prévoir et à ce grand biais qui a été, sur les marchés financiers notamment, de penser que le Covid serait la même chose que le SARS ou le MERS ou d'autres périodes d'infection venues de Chine qui s'étaient déjà produites dans les années 90 et qui avaient été finalement absorbées par l'économie en quelques minutes, en quelques secondes. Et le grand biais, c'est d'avoir voulu, entre janvier et mars, se convaincre de ça, aussi bien au sommet de l'État, en comparant le passé qui s'était déjà produit au présent, avec une énorme différence qui n'a pas été vue, lue et analysée, qui est que la Chine de 1990, c'est pas la Chine de 2020, en termes de ramification, en termes d'inclusion dans l'économie mondiale, en termes de présence dans l'organisation mondiale du commerce. La Chine, dans les années 90, qui connaît des épisodes de Covid, est un nain politique, un nain économique qui n'est dans aucune organisation internationale, etc. En 2018, c'est le poumon de l'économie mondiale. Voilà. Avec, alors évidemment, des infrastructures, des hubs sur place qui permettent à toutes les villes d'être en connexion immédiate avec la côte ouest aux États-Unis, avec l'Europe, etc. C'est de ne pas avoir... C'est la grande erreur fondamentale. C'est le grand péché lié à un gros biais cognitif. Donc, vous me posiez la question de pourquoi est-ce que vous avez vu ça avant les autres? Parce que nous, on s'est interrogé tout de suite sur le circulé, il n'y a rien à voir. Et ça a toujours fait partie de mon process d'analyse sur les marchés, de m'exposer aux réflexions des autres, ce que pensent les autres gérants. Ce qu'ils disent, pourquoi ils le disent? Tiens, l'inflation, il n'y aura pas d'inflation. Ah tiens, ça m'intéresse. D'où ça vient? Et en fait, quand vous creusez, vous vous rendez compte que souvent, vous êtes plus face à une sorte d'exhortation et non pas une conviction fondée sur l'analyse. C'est incantatoire. C'est souvent incantatoire.
Quand on dit ça va reprendre, bah oui, voilà. Pourquoi ça va reprendre, quand, comment, et
c'est incantatoire.
Et avec quelles conséquences?
Vous êtes dans l'incantation. Le Covid. Alors voilà. Donc nous, notre fonds a pu, on a eu la joie de garder, de préserver très largement le capital de nos investisseurs pendant le Covid, puisque en fait on a pris toutes les positions de précaution qui s'imposaient. Idem pour la sortie de Covid. Quand vous êtes en avance de phase dans l'analyse d'une crise, vous êtes en avance de phase dans l'analyse de la sortie de crise. Et donc on parlait du métier du trader qui était votre question, c'est également moi mon métier, c'était pendant 20 ans essayer d'analyser les grands phénomènes sociaux, sociétaux, géopolitique, stratégique, purement financier, comme la création monétaire de la Banque Centrale Européenne, ou comment allait pouvoir se faire la sortie de crise du Covid. Et en travaillant, si vous voulez, nous, notre équipe, toujours la même chose, on a acquis dès le mois de juin 2020, à l'époque où vous êtes en plein variant, à l'époque où je pense 100% de la population européenne est complètement déprimée, à l'époque où on vit tous les jours la mort au quotidien. Nous, notre équipe, on sait déjà que les vaccins sortent non pas en 2024, c'est-à-dire quasiment en ce moment, mais on sait déjà qu'ils vont sortir de manière imminente à la fin de l'année 2020. Pourquoi ? Ben, le travail. Par le travail, on tombe sur cette technologie qui est l'ARN Messenger. Par le travail, j'arrive à me glisser dans une conférence de Stéphane Vancel de Moderna. Par le travail, j'arrive à comprendre que les vaccins sont déjà en phase 1, que la phase 2 va sortir de manière imminente, que la phase 3 sera, et l'autorisation d'exploitation seront données en urgence par les États, que le vaccin de Moderna, c'est le même que celui de Pfizer, que les résultats sont complètement incroyables en termes d'efficacité.
Incroyable dans quel sens ?
Dans la capacité à vous immuniser, vous. Alors, oui. Non pas à stopper éventuellement la contagion, mm-hmm. et bien sûr que c'est, y a quantité de défauts de présentation, défauts de clarification, défauts d'explication de ce qu'ont été ces vaccins que nous avons été amenés de force à inoculer. Néanmoins, l'effet a été considérable parce que tout le monde a été vacciné, tout le monde a pu du moins développer une protection auto-immune de qualité et à sortir beaucoup plus vite de la pandémie que simplement grâce au temps et grâce à notre propre système immunitaire.
C'est un débat. C'est un débat. J'allais vous dire presque tout le monde. Ouais. Et puis certains s'en sont sortis sans mieux
oui, oui.
que.
Ah, non, avec. Mais oui. C'est pour ça. Je c'est à manier avec des précautions. Néanmoins, sur le plan de l'économie, ça a permis. Alors peut-être vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les vaccins. Peut-être que c'est les corps ont développé une immunité naturelle. Et avec ou sans vaccin, on s'en sera tous sortis de la même manière. Toujours est-il que en juin 2020, notre fonds d'investissement sait que les vaccins sont imminents, sait que la réouverture des économies est imminente, sait que nous n'allons pas rester 2 ans emprisonnés chez nous et tous retrouver un travail. Et donc, en positionnant le fonds bien en amont sur une sortie de crise, lorsque tout le monde vendait à la casse et à la découpe, le fonds a fait des performances considérables en quelques semaines au moment où les vaccins sont annoncés. Voilà. Et donc, simplement, pourquoi cette anecdote ? Pour simplement expliquer à notre auditoire qui ne connaît pas forcément ce qu'est le métier de gérant ou le métier des marchés financiers, c'est vraiment un métier de travail, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec les sensations. On dit souvent « je pense que » ou « j'ai la sensation que » ou « non, ça n'a rien à voir ».
Là, il y a une rigueur dans l'analyse
exactement.
Qui pousse très loin la réflexion.
Voilà, alors aujourd'hui...
Mais mesurés.
Ils sont des risques, en principe, mesurés. Oui. Exactement. Alors,
justement, Étienne de Marsac, peut-être pourriez-vous nous donner quelques réflexions, partager avec nous vos réflexions sur le monde d'aujourd'hui et de demain, notamment sur les marchés financiers, à l'aune de cette même méthode d'analyse.
Bon, ça c'est une question très ouverte, mais merci pour cette question. La première réflexion, grâce à l'analyse, c'est que les crises vont continuer à se produire, les crises économiques ou financières vont continuer à se produire, mais avec des impacts de plus en plus petits, parce que il y a eu beaucoup de travail de la part du système bancaire. On touche du doigt le rôle d'une banque centrale, notamment qu'elle soit européenne ou qu'elle soit américaine. Bien sûr, c'est de fixer le niveau des taux d'intérêt de sorte qu'on puisse juguler l'inflation et promouvoir la croissance équilibrée, mais c'est également la lutte par la réglementation et la régulation contre les risques qu'on appelle les risques systémiques. Il y a beaucoup de risques systémiques, le risque climatique est un risque systémique, mais le risque d'une banque, et on a eu 2 exemples en 2023, c'est pour ça qu'on peut en parler, le risque d'une banque ou d'un grand agent économique qui pourrait faire défaut ou d'un État qui pourrait faire défaut et qui entraînerait avec lui une catastrophe financière pendant plusieurs années, ça c'est un risque qui a considérablement diminué et qui est quasiment maintenant inexistant. Deux exemples.
Malgré le niveau d'endettement d'un certain nombre d'États, dont
oui.
le nôtre,
oui, oui, c'est ça le paradoxe.
Difficilement soutenable.
Oui, c'est ça le paradoxe. Mais bien sûr, on passe son temps à dire que la dette française. Mais oui, mais c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on passe son temps, vous l'écoutez tous les jours, vous l'entendez tous les jours. Tout le monde dit que ça n'est pas soutenable. La dette française n'est pas soutenable. Les dettes des pays européens ne sont pas soutenables. La crise de la dette revient et va nous frapper de plein fouet. Bon, mais à force de le dire. Ça devrait se produire. Pourquoi ça ne se produit pas? Alors que tout le monde en parle, tout le monde le voit, tout le monde en discute. Le temps a été suffisamment long depuis le moment où on en parle jusqu'à aujourd'hui pour que chacun d'entre nous, chacun des acteurs, se soit délesté. Pourquoi les prix baissent ou les taux d'intérêt remontent? Les prix baissent d'un actif parce que le monde entier se délaisse de cet actif. Pourquoi les banques sautent? Les banques sautent parce que les actifs financiers qu'elles ont en bilan ne valent plus rien. Tout le monde les a vendus. Ou bien les taux d'intérêt dont tout le monde a peur sont remontés parce que tout le monde s'est débarrassé des obligations. Quelles obligations? Les obligations souveraines qui sont portées par le système bancaire ou par le système assurantiel. Donc, on en parle, on en parle, on en parle. Si vous êtes un bon gérant assurantiel, si vous êtes un bon gérant de banque, si vous êtes Jimmy Dinon aux États-Unis, bon, bah, depuis qu'on en parle, vous avez tout vendu. Or, personne ne vend la dette française. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qui a fait le nœud du problème en 2011 et 2012, c'est les dettes financières, les dettes d'État, comme la dette de la Grèce, la dette de l'Italie, la dette de la France, détenues dans le bilan, à l'actif, des grandes compagnies d'assurance ou des grandes banques, était sujet à ce qu'on appelle le mark-to-market. Alors le mark-to-market, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, dans le bilan,
et la valorisation si quotidienne
exactement,
par rapport au prix de marché.
Exactement. Vous devez appliquer à cette dette souveraine une valorisation qui reflète le prix de marché. Ce système-là, effectivement, comptable, appliqué à l'échelle mondiale, lorsque vous êtes dans une situation de panique globale ou de doute sur la viabilité d'une dette, ce système-là a obligé les banques à imprimer tous les jours des pertes, à marquer à la valeur de marché en perte, en 2012, en 2011, pendant la crise de la dette souveraine, en perte leur bilan, à faire perdre potentiellement, non pas d'un point de vue tangible, mais potentiellement, c'est de la moins-value latente, des milliards et des milliards d'euros. Grande révolution. Qui fait que la dette européenne et la dette souveraine n'est plus un risque systémique. Et que la question de la dette française, c'est une question de, sur le très long terme, de remboursement pourtant potentiel. Hein, c'est un risque de crédit, mais c'est un risque de solvabilité à terme, mais c'est pas un risque de crise instantanée. Et donc la solvabilité, avant que la solvabilité de la France soit atteinte, il va encore se passer plusieurs dizaines d'années, il faut encore que l'endettement augmente, il faut peut-être aller sur des niveaux d'endettement de 300% du PIB, comme au Japon par exemple, mais on n'en est pas là. Et pourquoi on n'en est pas là? Parce que les banques et les compagnies d'assurance n'ont plus l'obligation, grâce à la réforme qu'on appelle la réforme de Bâle, de marquer à la valeur de marché, leur détention en dette souveraine. Donc la dette française peut valoir zéro, ça ne change rien au bilan des banques. C'est extraordinaire. Et c'est assez malin. Pourquoi? Parce qu'une banque, quelque part, vous avez un lien fondamental hein, entre un billet de banque. Mmh. Souvent, le billet de banque, ce qui fait la valeur d'un billet de banque, on se souvient de la Signa qui ne valait rien, parce que l'État ne valait rien, l'État était déliquescent. Un billet de banque est puissant, et une banque est puissante lorsque l'État est puissant. Il y a un lien direct entre les deux. Raison pour laquelle les billets de banque sont frappés du sceau d'un homme d'État jusqu'à présent. Maintenant, on peut avoir Christine Lagarde, je ne sais pas qui. Bon. Les États se sont désensibilisés en termes de fragilité grâce à cette réforme. Et cette réforme a pour conséquence elle-même de rendre beaucoup plus solide les dettes d'État elles-mêmes. Voilà. Donc vous me parliez de votre avenir, mais finalement, mon avenir, c'est qu'est-ce que vous voyez? Je m'élève en effet complètement en faux contre c'est ces visions toujours ultra pessimistes. Bon, la dette de la France est épouvantablement mal gérée, ça c'est sûr. Comment 900 milliards de dépenses sociales non, tous les
mais
ans.
Si on est d'accord, ce n'est pas la question.
C'est une catastrophe,
si
vous voulez.
Savoir s'il y a un risque de défaut, de contrepartie
non,
ou de financement.
Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas.
Vous faisiez un lien entre le parachutisme, les crises financières et l'apprentissage de la mort.
Ah,
est-ce
oui.
que vous pouvez expliciter ce lien?
Ah, très intéressant. Si vous voulez, alors, donc là on repart un petit peu sur le personnel, mais qui est la recherche des limites à l'extérieur de soi et non pas à l'intérieur de soi. Et donc il y a un lien qui est effectivement assez proche entre la chute libre, hein, qui est finalement le fait de dépasser une loi physique qui est la loi de la pesanteur, de l'apprivoiser, de non pas le vivre comme vivre cette loi comme une contrainte, mais de jouer avec elle et de virevolter dans l'air comme si vous étiez un oiseau. Donc celui qui fait de la chute libre, et ce qui fut une de mes passions, j'ai fait plus d'une centaine de sauts parallèlement à l'armée et ensuite parallèlement à mes toutes premières années en univers financier, c'est cette recherche permanente de la limite, que vous allez retrouver sur les marchés, puisqu'effectivement, pour faire de bons résultats, il faut surfer avec les limites, hein, il faut surfer avec les risques. Vous ne faites pas d'argent sans risque, vous ne produisez pas. Un investisseur, un chef d'entreprise, c'est ça très bien. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend du risque tous les jours pour le transformer en un projet et une réussite. L'asset manager, le gérant d'actifs, le trader, le négociant fait également ça de son côté. Et celui qui fait de la chute libre également. Et on va retrouver un petit peu mes dadas du début, c'était d'être proche de la création, proche de la nature, tout en refusant d'en voir les limites. Et au bout d'un moment donné, les limites vous rattrapent. Ça, ce fut effectivement une expérience qui m'a marqué, qui est l'expérience de la mort imminente, mais pour lequel j'ai été sauvé, et sauvé vraisemblablement pour faire autre chose, et appelé à faire autre chose, comme l'ont été mes deux frères prêtres. Donc juste pour l'anecdote, il s'est produit, si vous voulez, j'aurais dû mourir en parachutisme un matin, au club de Gap, Gap Talar, dans le sud de la France. Là. Ceux qui nous écoutent et qui ont fait un peu de la chute libre vont comprendre. Il s'est produit au moment du décollage de l'avion qui allait m'amener à 6000 mètres d'altitude, suivi d'une ouverture de la porte et suivi d'un saut dans le grand vide. Il s'est produit un truc qui ne se produit jamais, c'est-à-dire qu'au moment de décoller, l'avion s'est arrêté. Normalement, on parlait de mathématiques tout à l'heure, on parlait de process, on parlait de procédure, de rigueur absolue. Quand vous montez dans un avion avant d'aller faire votre saut, qui dure 1 minute 30, vous passez quantité d'étapes de vérification qui vérifient que votre parachute est sain, que vous êtes bien arrimé, que votre armature est bien sanglée, que vous avez bien tous les appareils qui vous permettent de mesurer votre distance au sol, votre casque, etc. Process que vous allez retrouver dans n'importe quel métier un peu dangereux et qui permettent d'éviter, de réduire, voire d'annuler totalement le risque d'erreur. Et moi, j'ai franchi toutes ces étapes en courant, en fait, et en disant au contrôleur, non, c'est bon, il y a un saut, l'avion part, j'y vais, je monte dans l'avion. L'avion se met en face de la piste, c'est un Pilatus, l'hélice commence à tourner, la carlingue tremble de tous les côtés, les freins sont serrés, on est à une seconde du décollage, et là, ce qui n'arrive jamais, vous pouvez en parler autour de vous, ça n'arrive jamais, j'en ai parlé dans le milieu militaire, ça n'arrive jamais, l'avion s'arrête. Et on entend donc le pilote dire, messieurs, je suis désolé, il y a un contretemps, nous attendons une personne qui va monter dans l'avion, et quelques minutes plus tard, arrive un photographe ou un caméraman qui veut monter à bord du Pilatus. On était déjà une dizaine, il n'y avait plus de place. Peut-être même une vingtaine, je ne sais plus exactement. Mettons une quinzaine, allez, on coupe la poire en deux. Et il n'y avait plus de place, et il dit, bon, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Je vais prendre la place de quelqu'un, et ça tombe sur moi. une chance sur 15. Je sors de l'avion, je saute de l'avion, et c'est une personne qui avait 3000 sauts, hein, qui blêmit en me voyant. Et il blêmit en me regardant, et il me dit « Tu fonces à la tour de contrôle immédiatement, s'il te plaît. » Alors un peu perturbé, je vais à la tour de contrôle, je vois le contrôleur qui blêmit, les deux s'étaient parlé avant, et en fait, dans ma course effrénée vers l'avion, j'avais sanglé à l'envers la sangle qui relie, donc la sangle horizontale, qui relie les deux sangles verticales qui me reliaient à mon parachute. Ce qui fait que quand vous chutez à entre 200 et 400 km/h, nous on faisait des exercices à 360 tête en bas, et que tout d'un coup vous étendez, freinez et ouvrez votre parachute, la pression est tellement forte que sans cette sangle horizontale qui est ceinte au niveau de votre pectoral, mon parachute aurait quitté mes épaules. J'aurais perdu mon parachute et je me serais écrasé. Cette expérience-là est assez marquante, évidemment, et conduit évidemment à penser, c'est cette phrase de l'Évangile, hein, il sera beaucoup demandé à ceux qui ont beaucoup reçu. Moi, j'ai beaucoup reçu. D'autres exemples de miracles qui ont touché ma famille, mes enfants, donc j'étais un polymiraculé. Et donc je porte de nouveau, on parlait de responsabilité au début, mais de nouveau une responsabilité qui est celle de faire fructifier les talents que j'ai reçus différemment, et qui m'a conduit quelques années plus tard à de nouveau, au travers d'une rencontre de l'Esprit-Saint, à de nouveau me poser les questions sur le sens de ma vie, le sens de mon parcours, et comment il pouvait être réaccordé et réaligné avec nos vocations.
Je fais une parenthèse parce qu'on a pas mal de questions qui nous parviennent de la part des auditeurs sur l'interprétation de la crise du Covid. Je voulais simplement rappeler que l'idée de l'émission, c'est surtout de parler du parcours d'un entrepreneur à travers les différentes situations qu'il a vécues, et pas forcément d'épiloguer sur la considération des événements qu'il a vécu. Alors on pourrait en parler plus largement, mais ça serait pas forcément dans l'objet de cette émission. Et au-delà de l'analyse très factuelle qu'il fait, il a sa vision des choses, qu'il n'a pas forcément exprimée parce que c'était pas le but de l'opération, mais croyez bien qu'il n'est pas victime de désinformation ou de quoi que ce soit qui ait pu influencer sa réflexion, et qu'au contraire, il a une approche très, très réaliste des choses. Mais c'est intéressant d'avoir vos questions, parce qu'on voit encore maintenant à quel point ce sujet est sensible, et qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de personnes, dont moi-même, qui sommes dans l'attente d'explications, enfin, sur cette crise que nous avons tous vécue de manière différente. Je ne sais pas si vous voulez réagir une dernière fois sur ce sujet avant d'enchaîner sur l'autre partie.
Non, mais vous l'avez très bien dit. J'illustre en effet par mon propos ce qu'on appelle un process de gestion, un process de réflexion qui permet d'anticiper les événements et leurs impacts sur les marchés et l'économie. Et mon métier, mon rôle, même si, on peut en parler, mais il se situe moins à un degré moral ou à un degré scientifique. Voilà.
Alors, on va aborder, puisque vous avez commencé à le faire suite à cet événement, ce qu'on va appeler votre conversion. Alors, parler de conversion pour quelqu'un qui a grandi dans un milieu assez traditionnel, assez classique du point de vue de la chrétienté, c'est un peu surprenant. Mais néanmoins, vous en parlez parce qu'il y a eu quelque chose de très profond qui s'est produit chez vous et qui a complètement changé votre organisation, votre vision des choses, notamment dans le domaine de la finance, mais pas que, hein, et qui a d'ailleurs conduit un certain nombre d'observateurs, de médias à vous cataloguer d'une certaine façon.
Oui, donc en effet, moi j'ai fait l'expérience un peu d'Icar, c'est-à-dire à force de monter vers le soleil et de s'en rapprocher, on finit par se brûler, et se brûler pas simplement les ailes, mais également aussi une partie de son âme. Je veux pas dire que la finance est diabolique, mais dans la finance, c'est un univers qui est absolument passionnant, qui peut être un univers mesurable, qui peut être un univers de raison, mais également un univers de passion, qui peut vous dévorer. C'est un univers qui est également très technique. Vous me posiez la question tout à l'heure de qu'est-ce qui va changer dans le futur. Mais dans le futur, l'IA, évidemment, on va complètement révolutionner notre être, en fait. Je crois que le 19e siècle, c'est un peu la recherche du bien, le 20e, la recherche de la vérité, notamment de la vérité politique. Le 21e, c'est la recherche de l'être, puisque l'intelligence artificielle va complètement disrupter, mettre en danger, menacer ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire des personnes libres. L'IA, j'ouvre une parenthèse, hein, mais l'IA, c'est l'IA, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, en fait, c'est une mécanique artificielle, c'est-à-dire que l'IA raisonne de manière probabiliste. Donc, les réponses de l'IA ne sont que des réponses probables et n'ont rien à voir avec la vérité.
En fait, ce n'est pas de la réflexion, c'est de la compilation de data, purement et simplement.
Exactement. Et ce qu'on pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire que l'être humain est créé pour être heureux en vivant sa liberté, liberté qui est autonomie, mais qui n'est pas liberté de faire n'importe quoi. L'IA, elle, est prisonnière de ses modèles de raisonnement et de ses probabilités. C'est-à-dire que quand l'IA vous dit oui, en fait, c'est oui à 99%. Il vous dit pas c'est à 99%. Quand l'IA vous donne dans les robots conversationnels une réponse, c'est une réponse qui est probable dans un certain intervalle de confiance. On vous donne pas l'intervalle de confiance. Mais c'est pour ça d'ailleurs que l'IA se trompe. C'est pas qu'elle se trompe, c'est que l'intervalle de confiance, s'il est à 50%, la réponse a une chance sur deux d'être fausse. En revanche, ce qui se va jouer et qui me paraît être complètement déterminant pour l'avenir et pour l'avenir de l'homme, c'est que finalement, l'homme va être mis en concurrence avec des machines qui résonnent en proba va vous conduire, vous, à être en concurrence avec un mode de raisonnement qui est un mode de raisonnement probabiliste. Et au lieu de répondre et de dire ce que vous voulez faire ou ce que vous pensez être le bien, d'accord, l'homme, voilà, au lieu de dire ce que vous pensez être le bien, ce que vous pensez être le beau, vous allez être conduit par concurrence à faire la même chose, c'est-à-dire à dire ce que vous pensez être probable. Et c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous n'êtes plus libre de penser ce que vous voulez, vous allez penser ce qui est probable. Donc on va toucher là, et c'est un vrai défi, j'en pense, pour l'humanité. C'est un truc, effectivement, sur les marchés financiers, on en parle un petit peu, mais vous allez toucher là l'existence, l'être, l'essence de ce qu'est l'homme, qui est mise en danger par cette concurrence ou par cette intelligence qui n'a pas la même capacité d'affranchissement, de s'affranchir des lois que la nôtre. Alors, je ferme la parenthèse.
Je vous coupe parce que je vois que le temps avance.
Ah oui. Alors, pardon. Alors,
j'aimerais bien que vous me reparliez de cette conversion, à quelle occasion, comment ça s'est manifesté.
Oui, bien sûr, pardon. Donc, vous savez, le Seigneur, il frappe à votre porte plusieurs fois dans votre vie. Frappe au début avec les sacrements, peut-être avec le baptême, peut-être au travers de l'Eucharistie. Le Seigneur vous parle et parfois vous n'êtes pas en capacité, même souvent, d'entendre. Les personnes qui ne sont pas chrétiennes ne comprennent pas ça, que le Seigneur nous parle dans le silence, une fois qu'on est capable de gérer et de contraindre le bruit du quotidien, et de lui faire une place, de lui faire de la place. Voilà. Cette place, elle se cultive, elle se travaille, elle se par la prière, par l'exercice de la vertu. Et donc le Seigneur parle dans le silence, et il parle non pas lorsque vous êtes au sommet de votre gloire, lorsque vous pensez que vous n'avez pas besoin de lui, il vous parle lorsque vous êtes tout en bas, il vous parle au plus profond de votre misère, de votre solitude, de votre détresse, de vos accidents. Le Seigneur se manifeste. Le Seigneur se manifeste dans votre pauvreté de la même manière qu'il s'est manifesté à Bethléem, dans une immense pauvreté, dans une mangeoire, et de la même manière qu'il est mort en homme considérablement seul, détesté de tous, abandonné des siens, etc. Et Je vous ai parlé de burn-out tout à l'heure. Après toutes ces années de finance de très haute intensité. Et j'ai fait une rencontre, effectivement, avec l'Esprit Saint, à l'occasion d'une prière des frères, dans ma paroisse, à Saint-François de Sales, en 2023. Hein, donc c'est un petit peu plus de... Ah non, février 2024. Où l'Esprit Saint s'est manifesté pour me parler et pour me dire très précisément, Étienne, libère-toi de tes chaînes, mets-toi en route pour Jérusalem. Avec un frère, hein, qui était autour de moi, qui a été saisi par le Paraclet et s'est mis à parler comme l'Esprit Saint. Du moins, c'est l'Esprit Saint qui parlait au travers de ça. De son enveloppe physique. C'est une expérience assez presque métaphysique, mais extraordinaire d'intensité, qui m'a comblé, si vous voulez, qui a revisité. J'ai écouté une personne, hein, pour le coup un être humain, un frère, qui priait à côté de moi, revisiter sans qu'il en ait conscience ma vie, et me parler de choses dont je suis le seul à connaître. Et c'est vraiment l'Esprit Saint qui parle, parce que l'Esprit Saint vous n'est jamais négatif. Il vous défend, il voit le beau dans ce que vous avez fait, il voit le bien dans ce que vous avez fait, il le met en lumière, il le façonne, il le refaçonne, il le réarticule, et le réaligne avec votre Créateur. Et donc j'ai fait cette expérience de rencontrer l'Esprit Saint qui a parlé de toute mon enfance pendant de longues minutes au travers d'un frère qui priait pour moi dans cet univers de cette église, dans une petite chapelle sur le côté, après avoir prié longuement le Saint-Joseph notamment. Et le Seigneur m'a demandé m'a montré que cette quête finalement de l'essence, de cette quête que je faisais au travers d'activités sportives d'un métier très grisant, était en fait une fuite de l'intérieur, et que s'il n'y avait qu'une vérité à aller chercher, elle était en moi-même, et c'était la vérité de la quête du Christ, quoi. Et c'était un moment assez prodigieux, assez fulgurant, puisque à partir de ce jour-là, une abondance de grâce tout autour de moi, dans ma famille, dans ma vie, de guérison intérieure, de guérison même extérieure, une abondance de grâce s'est déployée. Je dis pas que la vie était facile tous les jours. Et dès le lendemain de cette expérience, un évêque français m'appelait pour me proposer de m'occuper et de mettre tous les talents que j'avais reçus en finance pendant des années, tous ces contacts que j'avais pu côtoyer à la Banque Centrale Européenne, à la Réserve Fédérale, aux États-Unis, etc., utiliser tout ce savoir et toutes ces compétences pour reprendre une organisation qui s'occupe de connecter les leaders et les chefs d'entreprise chrétiens, mais essentiellement catholiques, dans le monde entier. En Amérique latine, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique. Et c'est mon métier depuis maintenant 2 ans que de favoriser l'évangélisation, la connaissance de Jésus par l'exemplarité, le leadership au travers de chefs d'entreprise que je rencontre et que je convainc de faire partie de notre réseau, un réseau qui réunit ces personnes plusieurs fois par an. Dans des événements de très grande qualité dans lesquels se produit un riche partage de connaissances, un échange fondé sur la vérité, et c'est la vérité du Christ, un échange fondé sur la prière, et puis un repérage, si vous voulez, de projets d'évangélisation, d'accompagnement, d'entreprises, ou de charities en anglais, ou de communautés qui pourraient avoir besoin, pas forcément de financement, mais besoin de l'expertise de seniors. Voilà. C'est un réseau de seniors qui apportent leur expertise et qui se transforment dans la foi, de sorte ensuite d'irradier dans la société et de faire vivre ce christianisme que nous appelons de nos voeux.
Et qui est universel. Alors nous en avons bien besoin, donc ça nous donne plein d'espoir pour la suite, puisque un chef d'entreprise, il est parfois dans son environnement un peu restreint, et il a besoin aussi de s'ouvrir et de permettre à son outil qui est l'entreprise d'influer sur la société de différentes façons. Donc c'est une superbe initiative que ce cercle de pensée chrétien. Alors on va terminer cette émission, Étienne, si vous le voulez bien. Je rappelle que nous sommes avec Étienne de Marsac dans notre émission traditionnelle, par une anecdote, puisque j'ai discuté avec vous tout à l'heure, je vous demandais si vous aviez des personnages de référence, des livres de référence. Vous auriez pu nous parler longtemps d'Élie Donat de Saint-Marc, puisqu'il fait partie des personnes qui vous ont fortement influencé à tout point de vue. Mais je vais retenir simplement une anecdote. Vous avez rencontré l'acteur principal du film de Mel Gibson, La Passion, donc Jim Cazaviel, et vous l'avez rencontré pendant assez longtemps aux États-Unis. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Ah oui, merci pour cette question. D'abord les circonstances. Je l'ai rencontré à Washington à l'occasion de la seconde élection de Donald Trump. Donc Jim Cazaviel fait partie de cet entourage très évangélique, très catholique, qu'on peut retrouver parmi les proches de Donald Trump. Donald Trump, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je trouve qu'il faut savoir faire une distanciation entre la personne et ses actions. Et ses actions me paraissent assez, assez remarquables. Et Jim Cazaviel, je l'ai rencontré en effet. Nous avons discuté pendant 2 heures où il m'a livré son témoignage bouleversant de vie et mort intérieure lors de son tournage du film La Passion. Pour ceux que ça intéresse, vous allez retrouver une partie de ce témoignage sur YouTube où il en parle. Et ce qu'a vécu l'équipe de tournage pendant les nombreuses semaines est très troublant, c'est-à-dire une avalanche de contrariétés techniques, météorologiques, de signes très troublants, comme si l'esprit du mal voulait à tout prix empêcher la sortie de ce film et le tournage de ce film. Première partie de notre discussion, et deuxième partie un peu plus fondamentale, que moi je ne connaissais pas, qui est que Jim Cazaviel a perdu la vie. Alors, il y a quantité d'éléments très, très intéressants dans son tournage, hein, mais il s'est luxé, par exemple, l'épaule. Vraisemblablement, cette luxation, il faudrait vérifier sur le Saint-Suaire, mais peut-être assez proche des blessures du Christ lorsqu'il a porté la croix. Et donc, quand il porte la croix, avec l'épaule complètement déboîtée, et il souffre, comme il n'est pas permis de souffler, pour ceux qui ont fait une luxation, vous savez la douleur que ça peut occasionner. Deuxièmement, il a été foudroyé au sens littéral du terme par la foudre, et il a perdu la vie. Alors je ne sais plus si c'est pile sur la croix ou si c'est à la descente de la croix. Et donc son cœur s'est arrêté pendant plusieurs minutes. Son cœur s'est arrêté, mais sa conscience, elle, ne s'est jamais arrêtée. Donc dans cette discussion, Jim et moi avons conversé de ce qu'il a vécu après la mort. Et ça va être d'ailleurs le sujet du film La Résurrection. Alors je suis pas certain là que ce soit Jim Cazaviel qui soit véritablement qui tourne ou qui ait tourné La Résurrection, parce qu'il y a eu des désaccords avec la production et Mel Gibson. Mais le sujet de notre conversation et le sujet de La Résurrection, c'est la descente que lui-même a vécue consciemment lorsque son corps était arrêté aux enfers. Comment qui est peut-être une expérience, alors c'est très mystique, hein, mais d'identification très proche de ce qu'a vécu notre Seigneur lui-même pour aller combattre le démon, les démons, sauver, aller chercher les âmes, les sauver et les faire monter au ciel. Et Jim en parle, voilà, pendant une heure. C'est une expérience assez assez extraordinaire où il a eu la sensation d'être écartelé par le diable lui-même
à l'intérieur de lui-même et tout en ayant ce sentiment physique d'être écartelé. Il raconte que sa bouche, il sentait sa bouche se déformer au moment où le démon essayait de l'attirer dans le centre des enfers et avoir été obligé de résister intérieurement et de dire non jusqu'à ce que son cœur reparte. L'expérience de Jim Caviezel est unique, hein, c'est on y croit ou pas, toujours est-il que la densité de ce qu'il a vécu et en tout cas de son récit est très surprenante. On ne sait pas si on a affaire à un héros, un saint ou un fou, ou les trois à la fois. En tout cas, il n'est pas ressorti indemne, ça je peux le dire, de cette expérience, avec une foi qui elle est sidérante, c'est-à-dire que lui il sait. Voilà.
Bah écoutez, merci pour cette rencontre, parce que nous avons été nombreux à être touchés par ce film magnifique, très attaqué à l'époque de sa sortie, mais on comprend pourquoi il a été attaqué aujourd'hui. Pour terminer, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez nous parler de votre futur. Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, mais quelle est votre mission à venir ?
Je l'ai rapidement évoqué, exactement. Ma mission, c'est celle Alors, il y a la mission pour moi et la mission pour les autres. Pour moi, c'est de complètement m'aligner avec, aligner ma foi, ma vie de père, ma vie de mari, et mon activité et ma sphère professionnelle. Voilà. J'ai la chance, vraisemblablement, de pouvoir réussir progressivement cette unification et cette union à laquelle nous sommes tous appelés, à ne pas séparer les deux sphères. Alors, on sait que en France, c'est un sujet, puisque la laïcité mal comprise nous empêche de faire vivre notre foi sans être taxé immédiatement de conservateurs, de nazis,
de réactionnaires,
de tout ce qu'on déteste. J'ai un métier qui permet de le faire, qui me permet d'être très inspiré par ce que font les autres dans d'autres pays du monde. Je pense notamment au Mexique, où je pars dans quelques jours à la rencontre d'hommes de foi, d'hommes d'action qui n'ont pas peur de parler de leur foi dans leur vie de tous les jours. Je pense notamment à un chef d'entreprise là que je vais voir qui a pour habitude de faire bénir par des prêtres tous les ans les bâtiments de sa boîte. Et alors, tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas catho dans sa boîte, mais les gens ont compris que c'était quelque chose d'important pour le Big Boss. Et je suis sûr que ça porte du fruit, ça interpelle, ça porte du questionnement, etc. Donc, dans les mois qui viennent, je vais continuer à rayonner, me semble-t-il, dans cet univers des grandes personnes ultra vertueuses, très croyantes, ou en recherche de foi et qu'il faut ramener tranquillement vers Jésus.
Ouais, écoutez, c'est magnifique de pouvoir conclure votre interview sur ces belles paroles qui seront porteuses de sens pour beaucoup d'auditeurs, je n'en doute pas. Merci, chers amis, et à très bientôt.
D'entendre le libre journal des entrepreneurs dirigé par Louis Laboca et Hugues Sérapion, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 23 avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.